Bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors c'est un podcast qui rassemble des personnalités, des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des experts, des agents du ministère de l'Intérieur dans toute leur diversité, ou des personnes aussi qui ont bénéficié de notre action. C'est un podcast vraiment qui raconte des bribes de vie, des histoires personnelles, professionnelles, et on échange sur des moments forts, sur des thématiques qui nous sont chères ici au ministère de l'Intérieur. Alors aujourd'hui, on vous propose dans ce podcast de parler à la fois histoire, mais à parler aussi innovation et parler surtout des équipements et d'un matériel particulier qui est vraiment notre quotidien, nous les policiers, les gendarmes, les pompiers. On va parler des véhicules, des voitures de police, des voitures de gendarmerie notamment. Et j'ai avec moi deux experts qui vont se présenter dans un instant, Dominique et Olivier, qui connaissent très très bien ce domaine. Et on vous propose vraiment de voyager aussi dans le temps avec ce podcast, parce qu'on va parler notamment des véhicules très modernes, peut-être même des véhicules du futur, mais aussi de ce fameux panier à salade qu'on a tous en tête et qu'on connaît tous bien et qui date de quelques décennies maintenant. Merci Olivier, merci Dominique d'être avec nous pour ce podcast. Alors peut-être Dominique, déjà je vais commencer par vous laisser vous présenter rapidement, et puis surtout présenter votre engagement. Et depuis combien de temps vous êtes engagé pour valoriser ce patrimoine important que sont les objets ou les véhicules de la police?
Eh bien Camille, les chiffres sont clairs. Il y a 15 ans que l'Amicale Police Patrimoine a été créée, constituée de policiers en activité ou retraités, mais aussi de gens de la société civile qui partageaient nos valeurs, qui partageaient la nostalgie d'une certaine époque, rapportée bien sûr notamment aux véhicules. Et donc depuis 15 ans, la vocation de cette amicale, par défaut, est devenue la mémoire de la police nationale, puisque nous donnons vocation à sauvegarder les matériels, les équipements, les véhicules, mais aussi la mémoire de nos anciens, dont nous avons pu mettre sur notre site, amicalepolicepatrimoine.fr, des témoignages rares de collègues qui ont fait une carrière ordinaire, mais à des époques extraordinaires, pendant la guerre, pendant l'occupation, oui, avant, après, sur une tranche de vie de peut-être une cinquantaine d'années. On a des témoignages très forts de gens qui maintenant nous ont quittés, mais dont le souvenir, le témoignage restera sur nos pages informatiques.
Mais c'est un bel engagement. Vous êtes combien dans cette association?
Nous sommes peu parce que l'idée n'était pas de reconstituer en parallèle à la police nationale bis. Nous sommes quelques dizaines seulement d'adhérents, chacun ayant sa spécialité. Nous avons des mécaniciens, mais nous avons des graphistes, nous avons des gens qui ont un vécu, soit dans la police, soit dans d'autres administrations. Et tout ça mélangé, ça crée une osmose sympathique parce que la vocation, c'est le patrimoine, clairement. On se situe plutôt à travers nos véhicules dans le cadre des Trente Glorieuses. Mais au-delà de ça, dans la mesure du possible et en fonction des demandes que nous font les gens que nous croisons sur toutes nos manifestations, par rapport à des réponses qu'on ne peut pas donner, on fait des recherches. Et on arrive quelquefois singulièrement à trouver des situations, des cas d'espèces qui sont anecdotiques, qui sont émouvants, qui sont enrichissants de toute façon.
Alors vous avez vous-même plusieurs véhicules de police, plusieurs voitures de police au sein de l'association, de l'amicale, que vous exposez parfois dans des événements. Combien de véhicules vous avez et quel est votre préféré parmi tous ceux-là?
Alors déjà, pas parfois, Camille, c'est-à-dire tout le temps. Hors Covid, bien sûr, nous faisons une trentaine ou 35 manifestations sur l'année, qui sont soit des manifestations statiques, soit des manifestations en dynamique. J'entends par là des défilés ou des choses comme ça. Des rallyes, exactement. Le dernier en date, c'était le rallye des remparts d'Angoulême, par exemple. Mais ce qui est à noter dans le cadre de notre activité associative, c'est que nous avons à peu près un tiers d'activités qui relèvent d'un club automobile ordinaire, donc participation des grands rallyes et de grandes manifestations comme le Mondial Automobile, où nous avons pu exposer 6 fois consécutives. Ça, c'est activité de club proprement dit. Nous avons une activité, et nous y tenons beaucoup, caritative. C'est-à-dire nous nous associons au Téléthon, au Lions Club, à des associations d'handicapés, et qui éprouvent un plaisir énorme à pouvoir monter dans nos vieux véhicules. Et enfin, nous avons un tiers d'activité qui correspond aux besoins que la police nationale, dans toutes ses composantes organiques, nous réclame, qu'il s'agisse de journées de l'intérieur, journées du patrimoine, semaine de la sécurité routière, inauguration, commémoration, voire départ en retraite ou encore mariage de collègues dans notre panier à salade.
Le jour où je pars en retraite, je penserai à vous appeler.
D'ici là, je pense que l'association, vous avez passé 50 ans, une association disparaît généralement, donc on ne sera plus là pour vous honorer notre présence.
Quelle voiture vous avez? Et je reprends ma question, quel est votre préféré parmi tout ce parc automobile?
Alors nous avons une douzaine de véhicules. Clairement, pas plus, parce que nous n'avons pas vocation à reconstituer la totalité du spectre des véhicules utilisés dans la police, certains n'ayant pas d'autre intérêt qu'être une bagnole, une voiture d'origine populaire. Nous avons privilégié des véhicules qui ont une histoire humaine. Bien évidemment, le panier à salade est le plus emblématique, mais nous avons la 4 chevaux, la Dauphine, le pick-up Coloral qui faisait les premiers enlèvements à la PP. Des voitures qui ont marqué emblématiquement des époques de l'histoire de la police. Mon préféré, c'est quand même, ça reste et ça tombe bien, le panier à salade.
Ah, alors, parlez-nous du panier à salade.
Alors ce panier à salade est connu de toutes les générations pour la simple raison qu'il a été en service quasiment 40 ans dans la police et plus particulièrement à la préfecture de police, même si dans les grandes villes comme Lyon ou Marseille, il y avait ces fourgons. Ce véhicule a été à l'origine conçu par les usines Citroën pendant la guerre. Il est sorti, il a été présenté en 1947 au premier salon de l'auto et mis en service à partir de 1948. Et la police parisienne, du fait de sa potentialité, de sa polyvalence, l'a adopté à partir de 1950, globalement. Et l'ayant vécu à titre personnel, puisque j'ai passé 35 ans sur Paris, le dernier des derniers véhicules ont été réformés vraiment en 1990. Donc c'est quand même
40 ans de notre histoire.
Ce fourgon a été décliné en une seule version pour la police. C'était une version rallongée, avec un porte-à-faux arrière fait par le carrossier Curus, pour les plus anciens. Et donc, il avait vocation à une polyvalence totale d'emploi, lui permettant, pour un jour donné des années 60, aller le matin en intervention dans le cadre de la police secours, s'entend, je sais pas, emmener à l'hôpital une maman sur le point d'accoucher. Deux heures après, il récupérait un clochard gisant dans son vomi sur le boulevard de l'hôpital et l'emmenait à la maison de Nanterre. L'après-midi, eh bien, il allait faire le tour des commissariats pour récupérer des mobilettes volées qui étaient en préfourrière et terminait le soir peut-être par la chasse aux prostituées au bois de Boulogne. Tout ça, c'est très anecdotique, mais c'était un vécu permanent de tous les policiers qui, pendant 40 ans, l'ont utilisé.
Il s'en est passé des choses. Je sais aussi, je crois, mais peut-être vous allez me contredire, des images que je peux en avoir, il y avait une bouée de sauvetage à l'intérieur de ces véhicules parce qu'on allait aussi, on avait une mission de sauvetage dans la Seine.
En cas de noyade, souvent le panier à salade qui était nombreux, il y en avait un à deux par arrondissement, intervenait avant les pompiers, avant la brigade fluviale qui elle a été créée dans les années 1900 mais qui n'avait pas les moyens de nos jours. Effectivement, on lançait une bouée, le cas échéant, le brave gardien de la paix se jetait à l'eau pour récupérer l'indigent. Cela étant, il y avait également un brancard et il y avait les boîtes de secours, il y avait une arme dite collective, c'était un PM, pistolet mitrailleur. Donc en fait, ce véhicule, dans sa configuration et dans le contexte d'époque, était prêt à couvrir toutes les éventualités, sauf une attaque nucléaire.
Est-ce qu'en 1950, ce véhicule était moderne? Si on l'a gardé si longtemps, c'est qu'il devait être efficace.
Il était tout à fait innovant, parce que lorsqu'il est sorti, c'était le premier utilitaire à plancher plat qui était à disposition de tous les entrepreneurs artisans. D'ailleurs, la carrosserie était déclinée en une foultitude de modèles, rehaussés, rallongés. Ça allait depuis la bétaillère, en passant par le camion publicitaire Philips, qui arborait les dernières machines à laver dans un cadre vitré, et ainsi de suite. Il y a eu des tas de déclinaisons. Mais la plus connue est à l'évidence la version panier à salade, parce que noir et blanc. Parce que faisant pimpon, parce qu'avec disposant d'un gyrophare orange jusqu'en 75 et ensuite bleu, et puis s'il est emblématique de la région parisienne, au même titre que les camions, les Hotchkiss des pompiers ou les vieux Renault TN4 de la RATP. Pardon. Donc du vert, du rouge, du noir et blanc.
Merci beaucoup pour ce retour dans le passé et vous nous avez emmené dans l'imaginaire de ce panier à salade qu'on a tous en tête. Moi, je l'ai bien en tête parce que devant mon travail, au pied de mon travail, il y a un food truck qui est un panier à salade, en fait, qui a été re-restauré autrement. Et c'est vrai que tous les jours, quand je vais acheter à manger, c'est dans, finalement, le panier à salade que j'achète mon repas de midi.
Ça y est, comme vous êtes accro, Camille. Vous êtes accro.
Mais je suis accro. Comme quoi, le vintage est indémodable. Je me tourne vers toi, Olivier. Olivier, tu es à la fois sous-directeur au sein du ministère de l'Intérieur, tu vas nous en parler dans un instant, mais tu es aussi étudiant. Alors, comment on peut être étudiant tout en étant sous-directeur?
Alors, sur la partie étudiante, je vais simplement dire que je suis moi aussi, et je fais écho à ce qui vient d'être dit à l'instant, un passionné d'histoire. Et donc, je m'intéresse à la fois à l'histoire de la police et à l'histoire plus généralement du ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, donc, je suis sous-directeur en charge de l'innovation et de la prescription des achats pour l'ensemble des équipements.
Des achats, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'on définit avec toute mon équipe, et surtout en lien avec la police et la gendarmerie, on définit les besoins du terrain, les besoins opérationnels pour envisager l'achat d'équipements qui peuvent être bien évidemment les véhicules, mais aussi les armes, mais aussi un certain nombre d'équipements. On parlait tout à l'heure d'un certain nombre de choses qui sont à l'intérieur des véhicules, un brancard, des couvertures pour des gardés à vue par exemple, ou l'alimentation des gardés à vue, toutes choses qui sont à prendre en compte et que le ministère achète au travers de marchés publics auprès de fournisseurs. Nous en avons aujourd'hui environ 800 qui sont référencés et qui fournissent un certain nombre d'équipements pour les policiers et les gendarmes pour faire fonctionner leur activité au quotidien.
Donc c'est de la prospective pour trouver quelque part les meilleurs équipements pour satisfaire les besoins du terrain, c'est un peu ça ?
C'est exactement ça. Donc nous recueillons les besoins du terrain, nous les transformons en langage marché public pour permettre d'acheter tout ça, en pensant toujours à innover, avec quelques considérations très importantes. Bien évidemment, nous sommes attentifs au prix, mais nous sommes également attentifs à la qualité. Il faut définir la qualité de manière la plus précise possible en fonction du prix et en fonction des délais de livraison pour qu'il n'y ait évidemment pas de rupture pour les policiers et les gendarmes sur le terrain. Donc ces trois paramètres sont systématiquement pris en compte pour acheter au profit des policiers et des gendarmes.
Alors combien de voitures de police on achète chaque année, de voitures de police et de gendarmerie bien sûr, on achète chaque année, et combien de temps il faut entre le moment où on décide du modèle et le moment où il arrive dans les services?
Il y a quelques années, j'aurais dit qu'on en achetait pour la police et la gendarmerie entre 5 et 6 000 par an. Il se trouve cette année que nous sommes dans une année un petit peu particulière, puisqu'il y a un effort très significatif qui a été fait pour l'achat des véhicules. Nous allons en acheter en 2022 plus de 12 000 véhicules. On aura l'occasion, de décrire l'ensemble de ces véhicules. Ce sont des véhicules effectivement qu'il faut renouveler régulièrement parce qu'ils sont très sollicités. Ils font beaucoup de kilomètres chaque année. Ils sont soumis aussi à de rudes contraintes, des contraintes opérationnelles du terrain que l'on connaît. Et donc, il faut régulièrement les entretenir et surtout les renouveler.
J'avais lu quelque part que finalement, les véhicules étaient renouvelés complètement tous les 4 ou 5 ans environ. Est-ce qu'il y a des véhicules très très vieux que l'on garde? Et peut-être oui. Qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles oui. On les garde. Et sinon, un véhicule, j'allais dire, standard, tous les combien de temps on le change?
Alors, il faut peut-être distinguer les types de véhicules, puisque certains véhicules restent plus longtemps en service que d'autres. On parlait tout à l'heure du panier à salade qui restait 40 ans. Moi, j'ai un autre exemple en tête qui reste encore aujourd'hui de manière opérationnelle et que les Français ont vu récemment à la suite d'un certain nombre d'événements de rue. Ce sont les véhicules blindés de la gendarmerie. Ils ont aujourd'hui une quarantaine d'années. Donc, ce sont des véhicules anciens qui sont encore en service, qui vont être renouvelés cette année puisque nous avons lancé un marché et nous avons un attributaire. À partir de la fin de l'année et de l'année prochaine, nous aurons des nouveaux véhicules blindés de la gendarmerie. Donc un véhicule peut durer 40 ans comme celui-ci, même si évidemment, j'allais dire, il subit un certain nombre de réajustements. Je ne veux pas dire le mot rétrofit, mais c'est bien celui-ci.
Il passe chez le garagiste de temps en temps quand même.
Il passe chez le garagiste, il est entretenu et il est rehaussé en qualité. Mais là, si on parle plutôt des véhicules de patrouille, on va dire qu'il reste entre 7 et 8 ans en service, ce qui est assez long, hein, compte tenu à la fois du kilométrage réalisé et des contraintes opérationnelles. Parfois un petit peu moins. Évidemment, ceux qui sont à réformer plus rapidement le sont et sont remplacés immédiatement. Nous avons aujourd'hui, entre la police et la gendarmerie, et également les préfets et les sous-préfets, un parc de véhicules au ministère de l'Intérieur qui est d'environ 65 000 véhicules tout compris, depuis le vélo électrique jusqu'aux véhicules blindés, en passant par toute la gamme des moyens mobiles, comme on les appelle, qui sont en service.
Alors 65 000, c'est vraiment beaucoup. J'imagine que les constructeurs sont très attentifs à notre ministère de ce fait, parce qu'on en achète beaucoup chaque année finalement. C'est un marché
évidemment
important pour eux.
Bien évidemment, nous sommes probablement le premier acheteur de véhicules de l'État. C'est quelque chose de très important, effectivement. Et nous avons un dialogue très nourri, très construit, avec l'ensemble des constructeurs, singulièrement les constructeurs français, mais pas uniquement, l'ensemble des constructeurs, pour avoir des modèles qui correspondent aux besoins des policiers et les gendarmes sur le terrain. Et on va sans doute en parler, mais les modèles sont très diversifiés parce que les besoins sont diversifiés entre un véhicule de patrouille, un véhicule type panier à salade qu'on évoquait tout de suite, jusqu'à un véhicule rapide d'intervention qui agit sur l'autoroute et qui doit donc avoir des performances très particulières, en passant par des véhicules destinés par exemple à des plongeurs ou à des CRS de montagne qui doivent eux aussi avoir des caractéristiques particulières.
Alors c'est quoi finalement la vie d'une voiture de police ? D'abord j'imagine qu'il y a toute une phase d'équipement pour qu'elle soit vraiment adaptée. Est-ce qu'elle peut avoir différentes missions dans sa vie ? Je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'un jour, elle va conduire le patron, le commissaire de police, qui, pour les besoins de son service. Ensuite, peut-être qu'elle va être utilisée par la brigade anticriminalité. Est-ce que finalement, le véhicule a plusieurs vies dans son affectation, ou est-ce qu'elle est vraiment spécifiée toute sa vie pour la même mission ?
Oui, possiblement. Je voudrais, Camille, revenir sur l'évolution du besoin en réalité. Et singulièrement, je crois qu'il y a eu une rupture après 2015, après les attentats, et une prise de conscience qu'il fallait investir assez massivement dans des véhicules, avec sans doute plusieurs caractéristiques pour ces véhicules. D'abord, le besoin de véhicules plus spacieux et plus puissants. Simplement pour mémoire, auparavant, on pourrait citer quelques marques, mais les policiers, les gendarmes ont en tête les Ford Focus, les Renault Kangoo qui étaient en service, qui étaient des véhicules sans doute adaptés à l'époque,
mais qui étaient après
petits, qui étaient relativement peu puissants. On est sur des véhicules qui avaient entre 90 et 100 chevaux, donc des véhicules relativement peu puissants, mais qui avaient été jugés adaptés à l'époque. Le ministère de l'Intérieur s'est engagé dans un vrai processus d'évolution vers des véhicules plus spacieux et plus puissants, à telle enseigne qu'aujourd'hui, et les Français le voient aujourd'hui dans la rue, nous avons par exemple des Peugeot 5008 qui circulent avec, pour la police ou la gendarmerie, de nouvelles sérigraphies, des véhicules plus adaptés. Nous avons des véhicules qui sont aujourd'hui entre 130 et 180 chevaux, qui correspondent à des missions et qui sont surtout avec un coffre beaucoup plus imposant.
Pour mettre tout le matériel.
Pour mettre tout le matériel.
Et
quand je faisais référence aux attentats terroristes, la prise de conscience aussi de cette époque tient au fait qu'il fallait emporter plus de matériel. Je pense aux gilets pare-balles, je pense à l'armement collectif qu'on évoquait tout à l'heure dans le panier à salade. Donc il faut prendre en compte plus de poids dans le véhicule, et donc il a fallu adapter ce véhicule-là. Donc c'est l'arrivée notamment depuis l'année dernière du véhicule 5008 avec, pour la police nationale, le choix d'une couleur grise, d'une couleur un petit peu rénovée. Ça renvoie d'ailleurs, dans l'évolution du besoin de véhicule, à ce souhait d'avoir une meilleure image auprès de la population, et c'est très important. Pour l'anecdote d'ailleurs, mais peut-être que notre historien le confirmera, cette couleur grise, en fait, a été reprise d'il y a quelques années à l'APP. Dans les années 70, il y avait des véhicules de couleur grise. Et donc, on a retrouvé en quelque sorte cette couleur-là.
Donc, on innove, mais aussi on regarde le passé et on
sait
garder les codes de ce qui marche bien. Parce que pourquoi changer quand ça marche bien ?
Et puis, deux autres points de ces dernières années qui ont souligné l'évolution des véhicules, c'est la prise en compte, comme d'une manière générale pour le citoyen, de nouvelles normes de protection, par exemple. Les véhicules ont des sécurités qui sont aujourd'hui renforcées. Tout le monde connaît les airbags, mais il y a tout un tas de systèmes de caméras de recul, de conduite assistée, qui sont aujourd'hui de série sur l'ensemble des véhicules. Et puis, plus respectueux de l'environnement. Et ça aussi, c'est très important. Nous avons, dans notre service, envisagé les véhicules pour être plus vertueux en termes de respect de l'environnement, en allant vers des véhicules de plus en plus hybrides, ou électrique, et nous y travaillons encore actuellement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc ce sont des choses qui ont souligné ces dernières années l'évolution du véhicule, étant entendu, puisque je parlais tout à l'heure des prix qui sont aussi un des paramètres que nous regardons pour l'achat, que le prix d'un véhicule moyen a tendance plutôt à augmenter. Le citoyen le sait quand il achète son véhicule à titre personnel.
Aussi.
Le prix du carburant aussi, bien sûr. Donc tout ça est à prendre en compte. Un véhicule est de plus en plus sophistiqué, un véhicule est de plus en plus électronique aussi. Certains constructeurs américains dont nous connaissons l'ambition sur le marché mondial diraient que ce sont avant tout des fournisseurs de logiciels avant d'être des fournisseurs d'un châssis avec quatre roues. Mais c'est bien la tendance aujourd'hui. On a des véhicules de plus en plus sophistiqués et de plus en plus techniques.
Alors c'est super de parler aussi de l'environnement parce qu'on a une partie de notre parc qui est électrique avec des Zoé notamment. J'avais une petite question, Dominique. Est-ce qu'on sait combien consommer le panier à salade ? Beaucoup trop, c'est sûr.
Oui, je voudrais juste revenir sur les propos d'Olivier qui font résonance bien sûr à notre passé. Grâce à son service, cette sous-direction et l'expertise de ses collaborateurs, cela permet d'optimiser les besoins, de trouver les équipements, les véhicules, les motorisations adaptées. Et ça, c'est un luxe que n'avaient pas nos collègues des années 50, puisque les voitures qu'ont équipées la police à partir de ces années-là, c'était des voitures populaires, disponibles sur le marché, point. Le panier à salade, il n'y avait rien d'autre. Vous aviez ensuite, au fil des années, la 403, vous avez eu la 4 chevaux, la Dauphine, mais c'était des voitures qui étaient brutes de sortie de chaîne, dans lesquelles, à part la couleur noir et blanc, on ne faisait aucune modification. On adaptait une radio. Mais sinon, les voitures étaient foncièrement des voitures de base, populaires. Il n'y a eu que deux exceptions, à ma connaissance, qui ont fait qu'une voiture de police de ces époques ont été spécifiquement adaptées à un usage police. C'était la 4 chevaux Pi, à partir de 1946, dont tous les collectionneurs de miniatures se rappellent qu'il y avait une version avec les portières échancrées. Il y avait un moteur gonflé, il y avait une vitre arrière panoramique, d'équipement symbolique pour l'époque, mais qui débutait. Et à ma connaissance, le deuxième et dernier exemple, c'était la 505. Je pense qu'Olivier va me rejoindre sur ce sujet. 505 que les policiers appelaient la Goldorak par rapport à sa rampe lumineuse et qui était préparée chez Danielson, qui était un préparateur de rallye avec un moteur de 180 chevaux. Mais je n'ai pas connu d'autres exceptions et jusqu'à ce que, effectivement, la logistique se modernise au niveau du ministère et puisse enfin consacrer des véhicules adaptés, c'était des voitures basiquement populaire, ce qu'il y avait dans le marché. Et pour le typage, par exemple, vous aviez le typage avec un moteur de traction, une boîte 3 vitesses, plus une marche arrière. Et c'était tout. Vous n'aviez pas le choix des modèles.
Et donc, ça consommait combien, ce truc ?
Entre 20 et 22 litres au 100.
Ah, quand même.
Et pas du gasoil, hein, une bonne essence bien plombée.
Et tout ça sans accélérer, en plus.
Sans accélérer.
Alors, justement, comment on recueille aujourd'hui vraiment le besoin du terrain ? Comment ça se passe ?
C'est simple. Nous avons un dialogue très nourri avec les policiers et les gendarmes pour avoir leur expression de besoin et puis le retour du terrain. Leur expérience est fondamentale pour comprendre comment on va penser le véhicule qui est mis en service. Alors, plusieurs outils sont à notre disposition. D'abord, nous entretenons un dialogue quotidien avec les directions. La direction de la sécurité publique, comme avec la direction de la police judiciaire, comme avec d'autres directions spécialisées. Nous discutons avec ces directions-là, à la fois des motos, des véhicules pour la BAC, ou bien des véhicules pour les plongeurs, ou par exemple, je pourrais citer aussi les véhicules pour les unités cynophiles. Ce sont des véhicules très particuliers. Les maîtres chiens. Il faut faire monter dans le véhicule un ou deux chiens, qui peut rester parfois une heure ou deux stationnés, donc avec des conditions particulières à la fois pour les policiers et les gendarmes qui sont dans le véhicule, mais aussi pour le ou les chiens dans le véhicule. Donc ce sont des véhicules qui doivent être pensés particulièrement et pour lesquels nous avons donc un certain nombre de modèles aujourd'hui en service. Alors on discute avec les directions d'emploi, nous discutons aussi avec les utilisateurs de manière directe. Pour reprendre mon exemple des maîtres chiens, nous avons eu l'occasion de discuter avec des unités spécialisées. Nous avons aussi l'occasion de réaliser des prototypes de véhicules. Nous réalisons un, deux véhicules et puis sur la base d'une petite expérience de 2-3 mois, nous en tirons un certain nombre de conséquences pour améliorer le véhicule et nous lancer avec un constructeur automobile dans une série de véhicules qui seront mis en service après, bien évidemment, validation de la direction concernée. Donc, nous faisons ces tests-là et ces tests sont très importants. Parce que pour nous, ils permettent de recueillir un certain nombre de détails qui n'avaient pas été vus et qui nous permettent aussi d'envisager des modifications avant la livraison de ces véhicules. Et puis, dernière chose, nous testons aussi un certain nombre de véhicules. On parlait à l'instant des véhicules qui sont offerts par les constructeurs aux particuliers. Nous prenons parfois, chez les constructeurs, de véhicules et nous signons une convention de prêt pour tester ces véhicules pendant 2-3 mois. Je pense par exemple à des véhicules électriques. Nous avons testé quelques véhicules électriques pendant 2-3 mois en prêt à Paris ou en région. Nous avons pu tester des motos électriques également. Donc c'est important d'avoir le retour et de bien comprendre par rapport au métier qui est un métier à la fois généraliste et de spécialiste si ce véhicule-là peut bien correspondre aux besoins. Donc ça c'est la première partie, c'est la partie du recueil du besoin. Ensuite, nous traduisons le langage opérationnel en un langage plus administratif pour préparer le marché, un marché public qui nous permettra d'acheter ces véhicules. Donc nous rédigeons un document qu'on appelle un cahier des charges dans lequel nous précisons toutes les données techniques à la fois du véhicule mais aussi en termes d'aménagement.
Et là, faut rien oublier.
Là, il ne faut rien oublier. Évidemment, il faut être le plus exhaustif possible puisque la proposition du constructeur, elle, sera au regard de notre besoin et nous analyserons ces propositions en termes de prix, en termes de technique, de qualité, bien sûr, et puis en termes de délais qui peuvent être offerts pour la livraison. Donc, c'est un travail très conséquent, c'est un travail technique. Hein. J'ai souvent coutume de dire que c'est un travail de science de l'ingénieur, en quelque sorte, de traduire l'expression opérationnelle du terrain en quelque chose de technique compréhensible pour un constructeur automobile. Il faut aussi beaucoup de réactivité et puis de la souplesse pour à la fois traduire ce besoin opérationnel et parler le même langage que les constructeurs automobiles.
C'est aussi un travail de passionné, j'imagine, parce qu'il faut vraiment s'intéresser à toute cette technique pour avoir envie comme ça de traduire le besoin opérationnel en réalité, en fait.
Bien sûr, l'équipe qui est en charge de ces véhicules-là, qui est un bureau, le bureau des moyens mobiles, comme on l'appelle, est composé de passionnés de l'automobile qui regardent tous les détails et qui les connaissent parfaitement depuis un véhicule de type trottinette jusqu'à un véhicule blindé au profit de la gendarmerie. Donc ce sont vraiment des passionnés qui mettent toute leur énergie à définir ce besoin et à, encore une fois, traduire l'expression de besoin opérationnel des policiers et des gendarmes en un langage technique et administratif qui permet d'acheter.
Alors tout à l'heure, on a fait un bond dans le passé avec le panier à salade. Là, si on fait un bond dans le futur, dans, je ne sais pas, 50, 60 ans, Olivier, selon toi, quel serait un des véhicules du futur qui équiperait dans 50 ans les policiers ou les gendarmes?
Alors, je n'aurais peut-être pas la prétention de regarder aussi loin. On peut s'amuser à regarder des revues d'anticipation des années 50 ou 60 qui nous montraient que dans les années 90 ou 2000, nous serions avec des véhicules volants. Je crois que c'est difficile de regarder aussi loin. En tout cas, nous travaillons au sein du service aux véhicules de la police et de la gendarmerie pour les prochaines années et pour dans 4, 5, 6 ans. C'est important de regarder les évolutions. Alors, d'abord, comment est-ce que nous travaillons? Nous organisons un groupe de travail et nous avons réuni régulièrement un groupe de travail sur le véhicule du futur dans lequel nous associons l'ensemble des directions, des policiers et des gendarmes. Et nous leur demandons d'abord quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils voient l'évolution du métier généraliste ou du métier spécialiste, quelles pourraient être les conséquences de telle actualité, est-ce qu'il faut emporter plus de matériel, est-ce qu'il faut des véhicules avec plus de volume, avec plus d'autonomie, ce sont des questions que nous posons, avec plus d'électronique évidemment. Il faut penser aussi, et ça nous travaillons avec les services spécialisés du ministère qui sont en charge des aspects informatiques, des aspects nouvelles technologies, pour penser la technologie à l'intérieur des véhicules. Est-ce qu'il faut équiper par exemple les véhicules de caméras intelligentes qui pourraient donner de l'information sur l'environnement aux policiers et les gendarmes ou qui pourraient les aider dans leur mission. Donc ce sont des choses que nous devons prendre en compte parce qu'en fonction de tous ces choix-là, nous allons définir un véhicule avec un volume donné, une puissance donnée, mais aussi avec un certain nombre d'ajouts d'électronique depuis la rampe sur le toit du véhicule jusque peut-être dans le coffre avec un certain nombre d'ordinateurs qui seraient embarqués au profit des policiers et des gendarmes. Donc voilà, nous pensons repensons l'ensemble de ces véhicules-là avec des adaptations très importantes. Ce groupe de travail vit de manière très importante. J'allais dire qu'on réfléchit aussi en fonction des constructeurs. Et là, je voudrais rebondir sur ce que disait Dominique à l'instant. Bien évidemment, nous n'arriverons jamais, compte tenu de notre volume de commandes, à demander aux constructeurs un véhicule spécifique pour nous. Néanmoins, si nous ne pouvons pas faire développer un véhicule de nos rêves pour la police et la gendarmerie, compte tenu des volumes de commandes que nous avons, nous pouvons adapter ces véhicules-là. Et nous avons des moyens de les adapter, à la fois en propre, et il y a au sein du ministère de l'Intérieur une usine à Limoges qui fait de l'aménagement de véhicules, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et puis nous faisons appel à des carrossiers aménageurs qui, pour nous, transforment les véhicules qui sont destinés au grand public en véhicules pour les policiers et les gendarmes.
Merci beaucoup Olivier, c'était vraiment passionnant et un grand coup de chapeau, un grand merci à tous les agents qui travaillent avec toi ou à Limoges, parce que c'est grâce à eux que les policiers et les gendarmes, tous les jours, sont dans des véhicules bien adaptés et conformes à leurs besoins.
Oui, ce sont des passionnés qui s'engagent au quotidien et qui n'oublient jamais la mission opérationnelle des policiers et les gendarmes sur le terrain.
Un grand merci à toi Olivier et Dominique. J'ai l'impression qu'il y aura encore plein d'objets qui finiront par arriver à l'amicale, des véhicules, mais pas que, parce qu'au sein de votre amicale, vous conservez finalement tous les objets qui ont trait à ces missions de police. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir de l'amicale? Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous redonner votre contact? C'est la page marketing promotionnelle de la fin du podcast. Vous pouvez bien nous redonner les contacts pour vous retrouver.
Pour faire une petite digression et reprendre les propos d'Olivier, anecdotiquement, il faut savoir que quelquefois le passé télescope le futur ou inversement, puisque s'agissant du fameux panier à salade dont on a parlé, le prototype qui s'appelait la version H, ensuite HZ plus HY en fonction de la cylindrée, mais ça on s'en moque, était une version électrique.
Donc on avait des véhicules électriques dans
exactement.
Les années 60.
Oh non, carrément dans les années entre 45 et 49.
Ah oui.
Il y a eu quelques versions électriques avec des batteries. Et une toute petite autre remarque, si les amateurs de véhicules de police anciens vont sur Internet, et en fait on trouve tout et n'importe quoi pour une seule raison, je tiens à le préciser, c'est s'agissant de la préfecture de police, lorsque des véhicules étaient fournis par les constructeurs aux fins de validation, effectivement, il y avait des périodes d'essai qui arrivaient souvent à la conclusion que le véhicule n'était pas assez puissant, pas assez grand, etc. Mais en fait, ces véhicules avaient été dûment et régulièrement, systématiquement photographiés, car avant, car arrière, devant, derrière, l'intérieur, etc., figurent dans les archives de la police. Et ces archives, les quelques photos qui auraient pu en sortir, se retrouvent sur Internet. Donc, on prend pour argent comptant des deux chevaux, des Simca 1000 d'époque, alors qu'elles n'ont existé qu'à l'état de prototype. Pour revenir à notre association, eh bien, tout d'abord, ce que je peux espérer pour celle-ci, c'est qu'elle perdure dans le temps. Parce que nous n'avons, ce n'est qu'un constat, ce n'est pas une critique, parce que les urgences sont ailleurs, je le comprends parfaitement, mais nous n'avons pas d'aide de la tutelle. Nous exerçons une mission de mémoire, sauvegarde de la mémoire qu'à ma connaissance personne ne fait, avec une dynamique, une réactivité qui nous sert bien et dont le public est tout à fait friand. Donc notre survie passerait d'ailleurs par... je fais un appel au peuple, si des collègues essentiellement jeunes retraités voulaient venir, entre parenthèses, jouer avec nous aider à conduire les véhicules, à présenter aux jeunes générations ce qu'était le véhicule à l'époque, ils sont les bienvenus. Nous avons besoin, comme toutes les associations, ont besoin de renforts. Mais j'en appelle aussi à quelques autorités du ministère ou d'ailleurs pour nous trouver un local qui nous permette de créer enfin une maison de la police, un musée de la police, mais qui ne serait pas un musée comme le musée du 5e arrondissement de la police qui a la vertu d'exister, mais qui intéresse plutôt les historiens, ceux qui font une thèse, un doctorat. Le public, il veut des voitures, il veut des uniformes, et ça, on lui fournit. Et les deux ne sont pas incompatibles. Je rêve d'un jour où une personne, un préfet, un ministre, nous donne enfin un local en région parisienne pour concrétiser ce musée et surtout accueillir des scolaires, parce que des jeunes qui découvriront la police de l'époque, la connaissant mieux, la respecteront davantage.
Eh bien, le message est passé à travers de ce podcast.
Merci Camille.
Est-ce que vous pouvez juste nous redonner votre site internet très distinctement pour ceux qui veulent aller vous voir?
Alors, par tous les moteurs de recherche possibles, Yahoo, Google ou autres, c'est l'Amicale Police et Patrimoine. Tout est dans le titre, police, Amical, on y tient beaucoup à cette convivialité, et patrimoine parce qu'on se donne vocation à gérer le souvenir.
Eh bien voilà, merci beaucoup, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup Olivier. On se retrouve dans quelques jours pour continuer ces débats en Twitter Space sur les réseaux sociaux porte-parole MI. On parlera à cette occasion d'histoire, d'innovation et aussi des véhicules et des équipements. Donc je vous dis à très bientôt pour continuer ces échanges avec Dominique, Olivier et peut-être d'autres personnes qui les rejoindront. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.